à 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus. À 23 pas du mystère.
Auditeurs de Calenma Radio, bonjour. Vous écoutez une nouvelle émission de notre grille des programmes. Bienvenue dans À 23 pas du mystère. Oui, je sais, quand c'est moi qui le dis, ça sonne beaucoup moins bien que quand c'est Jérôme, parce que le maître de ces lieux, c'est Jérôme. Bonjour Jérôme.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Nous sommes également accompagnés d'une mystérieuse chroniqueuse, Miss Lemon. Bonjour Miss Lemon.
Bonjour à tous.
Bien. Alors, de quoi va parler de cette émission That is the question? Cette émission va parler de littérature de genre, et plus précisément de science-fiction et de polar. Bon, vous le savez, hein, la littérature de genre, qui obéit à des codes bien précis, est souvent méprisée par la critique littéraire. C'est vrai. Mais figurez-vous qu'on s'en fout complètement. On va quand même parler de ça. On va vous faire découvrir dans nos dans ces émissions, on espère en faire plusieurs, non pas tant des auteurs célèbres, même si on va quand même en parler un petit peu de temps en temps, mais plutôt des auteurs oubliés. On va parler aussi des éditeurs, des collections importantes du genre, exemple la série noire, la fameuse série noire pour le polar, ou alors la fameuse BD Métal Hurlant pour la science-fiction. On va solliciter des associations, des institutions qui cherchent à préserver ces ouvrages, ce patrimoine qui disparaît trop souvent. On va aussi bénéficier de l'aide de chercheurs institutionnels ou de chercheurs indépendants qu'on ira interviewer. Bref, on va bien s'amuser.
À 23 pas du mystère.
Calade, ma radio.
Bon, bah allons-y, hein, c'est parti. Jérôme, dans une première partie, tu vas nous parler des origines du roman policier. Puis dans une deuxième partie, on parlera SF. Allez Jérôme, on t'écoute.
Alors, on va commencer donc à revisiter un peu l'histoire du roman policier en partant d'un personnage assez célèbre, même un des enquêteurs les plus célèbres de la littérature policière, j'ai nommé Sherlock Holmes.
Ah, trop classe.
Créé en 1887 par l'écrivain britannique Conan Doyle, comme vous
Sir
le savez.
Arthur Conan Sir Doyle, Arthur qui a Conan dû être anobli, je pense, à un
tout
moment
à fait,
ou à un autre.
Tout à fait. Donc, Sherlock Holmes, il est le héros de 4 romans, d'une 60aine de nouvelles, qu'on appelle le canon de Sherlock Holmes.
D'accord.
Et il est aussi le héros de très nombreuses aventures qui ont été écrites par d'autres auteurs que Conan Doyle, qui D'accord. sont soit des parodies, soit des pastiches, écrites par des auteurs à la fois anglo-saxons, mais aussi partout dans le monde, de différentes nationalités dans
ouais.
le monde.
Il a eu un succès mondial.
Un succès énorme, mondial. Et il a inspiré une cohorte d'autres détectives à travers le monde, mm-hmm. qu'on appelle ses rivaux ou ses successeurs.
Ouais.
Ces aventures, elles ont été déclinées sur différents supports médiatiques, au théâtre, au cinéma, en séries télévisées, en pièces radiophoniques, en bandes dessinées, en jeux de société, en dessins animés, en jeux vidéo et même en comédie musicale.
C'est la grosse pointure du polar quand même, hein, Sherlock Holmes.
Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi finalement évoquer Sherlock Holmes dans une émission qui se veut en dehors des sentiers battus ? Mm-hmm. Eh bien, on a plusieurs bonnes raisons à cela. D'abord, l'actualité, puisqu'on a une nouvelle traduction qui vient de paraître des enquêtes de Sherlock Holmes, parue chez l'éditeur Gallmeister. Très récemment, en plusieurs tomes. Mm-hmm. Et ensuite, un dossier qui est sorti aussi à la fin 2024 autour de Sherlock Holmes dans un numéro de la revue Le Rocambole, publié par les Amis du Roman Populaire.
C'est une revue spécialisée sur l'étude du polar, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, ouais, c'est ça. Enfin, du roman populaire en général. On vous D'accord. mettra toutes les références dans le podcast.
Dans le podcast, oui, tout à fait.
Alors, on va évoquer ce célèbre détective, mais d'une manière un peu particulière. Donc, il est présenté souvent comme le premier grand détective ouais. Du genre. Mm-hmm. Mais on va essayer de montrer qu'il n'est pas sorti d'une pièce de l'imagination
ouais,
de son créateur.
Ouais, ouais, ouais.
Hein, et que Arthur Conan Doyle a utilisé des éléments qu'il a empruntés à des prédécesseurs.
Il y a toujours une filiation ouais. quelque part, quand
voilà,
même.
Tout
il suffit
fait.
De chercher.
Alors, on va se baser sur les mémoires de Conan Doyle, qui ont été publiés en 1924,
ouais.
dans lesquels il reconnaît 3 sources d'inspiration à Sherlock Holmes.
Mm-hmm.
D'une part, pour ce qui est de l'enquête policière eh bien, il reconnaît l'influence d'un auteur américain, Edgar Poe, dont le personnage de Dupin était l'un de ses héros favoris depuis son enfance.
Donc, grosse référence là quand même. Hein.
Oui, tout à fait.
Classique littéraire.
Pour la structure du récit, eh bien, il s'est inspiré d'un Français qui s'appelle Émile Gaboriau.
Qu'on ne connaît pas du tout, à la différence d'Edgar Poe.
Voilà, qu'on va présenter plus loin. Qu'il admirait pour sa façon nette de charpenter un drame. Donc là, je cite ses propos. Et puis, pour le personnage du détective, eh bien, il s'est inspiré d'un de ses professeurs donc de médecine, puisque Conan Doyle était médecin à l'origine.
Ouais.
Et ce professeur s'appelait Joe Bell, et il était remarquable à sa face d'aigle, à ses procédés bizarres, à sa manière un peu fantastique d'observer le détail. Voilà. Ouais. Donc ça, ce sont les trois influences que Doyle a reconnues. Mm-hmm. On va les reprendre un petit peu plus en détail en essayant d'ajouter des compléments. Donc, on va reprendre d'abord le personnage du détective. Donc, Conan Doyle cite Edgar Poe et son personnage Auguste Dupin.
Le fameux Dupin, j'avais lu La lettre volée il y a très longtemps.
D'accord. Alors,
Dupin apparaît.
Pour le resituer, c'est un personnage, c'était un Français. Ça se passe, ouais, ses enquêtes se passent, ouais, à Paris. Ouais. Et il apparaît dans trois nouvelles, dont la plus célèbre, c'est pas peut-être La lettre volée, mais c'est Les meurtres de la rue Morgue.
Tout à fait.
Paru en 1841. Donc c'est ce personnage-là qui a influencé Conan Doyle, mm-hmm, mais on peut aussi ajouter qu'il y avait également une tradition en Angleterre, donc ouais, Edgar Poe étant américain, mais ouais, il existait en Angleterre des prédécesseurs, des détectives qui ont précédé Sherlock Holmes.
D'accord.
Donc on peut en citer quelques-uns simplement. À partir de 1849, paraît une série de récits qui mettent en scène un membre de la police métropolitaine de Londres, mm-hmm, qui s'appelle Waters.
D'accord.
Et qui va raconter des affaires qu'il aurait réellement vécues, mmh, et qui, mmh, sont vraisemblablement basées sur des faits divers réels qui ont été romancés par l'auteur. Et ça, c'est une série qui a été assez longue, d'une part, et qui a connu un certain succès à l'époque. Mmh. Hein. Donc, qui précède Conan Doyle d'environ 40 ans.
Ah oui, quand même. Ouais.
Ensuite, on peut citer en 1864 deux enquêtrices, donc deux personnages féminins de détectives.
Alors ça, c'est beaucoup, c'est
quand
beaucoup
même
plus rare. Hein,
surprenant, voilà.
À cette époque.
Une Madame G, donc qu'on connaît par son initiale, qui elle travaille à son compte.
D'accord.
Et puis une autre dame qui s'appelle Madame Paschal, qui elle travaille pour le service des enquêtes de la police métropolitaine. Elle,
d'accord,
aussi travaille pour la police de Londres. Et ces deux femmes sont les narratrices de leurs souvenirs professionnels qui sont fictionnels.
C'est souvent, voilà, sous cette forme-là, cette forme de pseudo-souvenir, hein, de,
tout à fait,
où un personnage raconte ses expériences passées, quoi.
Tout à fait. Et donc, il y avait une tradition, donc ce sont quelques exemples, mais ce qui est important, c'est de voir qu'il y avait déjà une tradition du récit de détective en Angleterre,
ouais,
avant que Sherlock Holmes n'apparaisse.
De longue date. Hein,
voilà, il n'y avait pas qu'aux États-Unis. Pour ce qui est du narrateur, Conan Doyle fait ses remarques. Il nous dit, ne pouvant narrer lui-même ses exploits, il devait avoir un camarade assez neutre pour lui servir de repoussoir, mm-hmm, instruit, homme d'action, capable tout à la fois de l'assister dans ses entreprises et de les raconter.
Ah, là, on voit venir le fameux compagnon de
Sherlock. Voilà,
de
ce narrateur, c'est John Watson.
Voilà, le docteur Watson.
Le docteur John Watson, qui partage le logement de Holmes au 221B Baker Street, qui l'accompagne dans ses enquêtes, qui n'y comprend pas grand-chose,
ouais,
malheureusement,
ouais,
hein, et qui, en fait, sert de faire valoir au détective.
En fait, c'est un peu vous et moi, Watson, et ça montre ainsi la, voilà, différence entre vous et moi et le génie qu'est Sherlock, parce que nous non plus, on n'y comprendrait rien si on était avec Sherlock.
Voilà, c'est ça. Eh bien, on remarque en fait que ce procédé narratif existe déjà chez Edgar Poe. Et donc, dans,
d'accord,
les enquêtes de Dupin, ces enquêtes sont racontées par un ami de,
d'accord,
l'enquêteur, mmh, qui est d'intelligence moyenne, qui n'est pas stupide, mais qui n'a pas les facultés de son génial camarade.
Comme vous et moi.
C'est un ami qui cohabite également, qui, comme Holmes et Watson,
c'est quand même bizarre,
cohabite,
ces hommes qui cohabitent quand
avec,
même.
Mais
c'est
tout,
quoi cette histoire?
En tout bien, tout honneur.
Oh, bah, que tu dis.
Et qui le met en valeur, qui met en valeur les qualités du détective,
d'accord,
dans ses enquêtes, par le fait qu'il est narrateur. Le troisième point, c'est la structure du récit. Donc là, on va développer un petit peu le rôle d'Émile Gaborio. Donc on va le présenter un petit peu. Donc déjà, pour introduire, c'est dans ses romans. Donc le premier roman, c'est Une étude en rouge.
Donc ça, c'est un auteur français du 19e siècle, hein, Émile
Gaborio. Alors, je vais le présenter un peu en détail. D'accord. Je reviens d'abord sur les romans de Holmes, qui mettent en scène Holmes.
Ah, Étude en rouge, c'est Holmes.
Oui, c'est d'accord. Le premier roman qui met en scène Sherlock Holmes et qui est suivi par un autre roman qui s'appelle Le Signe des Quatre, paru en 1890. Un troisième roman, La Vallée de la Peur, en 1915. Et à part, le quatrième, le plus connu, Le Chien des Baskerville, mais qui lui est à part parce qu'il n'a déjà pas la structure narrative dont on va parler.
D'accord.
Et deuxièmement, c'est plutôt un roman qui est dans le registre du roman d'horreur. Qui est un peu
limite
à part dans la
aussi, un peu,
fantastique, roman d'horreur, qui est un peu à part dans la bibliographie de Sherlock Holmes. Mais par contre, les trois romans précédents, eux, sont construits de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont une structure narrative que Doyle a emprunté à Émile Gaborio.
Donc le fameux Gaborio.
Donc Gaborio, c'est un romancier français considéré, alors un peu abusivement, d'après ce qu'on connaît aujourd'hui, mais souvent considéré comme le père du roman policier, créé le roman policier, notamment en publiant en 1865 un roman qui était appelé un roman judiciaire à l'époque, qui s'appelle L'affaire Le Rouge.
Alors, du rouge, hein.
Voilà, on voit les liens
rouge,
peut-être
le rouge, hein.
entre L'affaire Le Rouge et Une étude en rouge qui pourrait être un hommage rendu par Conan Doyle à son prédécesseur. Donc l'affaire Le Rouge commence par la découverte de l'assassinat d'une femme, la veuve Le Rouge, et qui est suivie par une enquête menée par la police et par un enquêteur amateur qui s'appelle le père Tabaret, surnommé Tir au clair.
D'accord.
Je vous laisse deviner pourquoi. Alors au bout d'un moment, ce récit de l'enquête est interrompu par un deuxième récit qui va revenir en arrière, donc il y a un flashback déjà à l'époque, et qui va mettre en scène différents protagonistes, et qui va finalement expliquer pourquoi il y a eu, des années plus tard, l'assassinat de la veuve Le Rouge. Donc on revient en arrière, et on a un récit qui va expliquer.
Éclaircir le mystère, éclaircir en tout cas la motivation de l'affaire.
Ça. Et à la fin, retour à la période de l'enquête pour le dénouement, l'arrestation du coupable et la conclusion du roman.
Hein. D'accord.
Donc on a un roman en deux parties.
D'accord.
L'une étant imbriquée dans l'autre.
Ok, hein, ok. Voilà. Donc c'est ça la grande structuration qui va reprendre.
Ça, c'est la structuration de Gaborio qu'il a utilisée dans différents romans. Et on se rend compte que Conan Doyle a repris cette structure-là pour structurer ses propres romans. Dans donc, L'étude en rouge, eh bien, on commence par la rencontre de Watson avec Holmes. Hein, ouais, les deux personnages se rencontrent. Il mène une enquête sur le meurtre d'un Américain. Et l'enquête aboutit à l'arrestation du coupable. Et puis, ici, le coupable se met à être le narrateur d'une histoire qui va remonter dans le passé et qui va nous expliquer pourquoi il a assassiné cet Américain.
D'accord.
Donc on a exactement la structure utilisée par Gaborio dans son roman.
Ouais. D'accord.
Si on regarde les autres romans, Le Signe des Quatre, on a la même chose. On a un récit enchâssé à l'intérieur d'une enquête qui, lui, va nous emmener en Inde, où sont les origines du meurtre. Et dans La Vallée de la Peur, qui, lui, est écrit tardivement, en 1915, eh bien, Conan Doyle reprend encore cette structure narrative, et avec un récit enchâssé qui, lui, va nous emmener 20 ans plus tôt dans une ville minière des États-Unis. Donc,
d'accord,
il y a un véritable attachement de Conan Doyle pour cette structure dans ses romans. Pas dans les nouvelles, hein, qui sont construites différemment, mais dans ses romans, c'est un peu comme s'il était un petit peu incapable de structurer un roman policier avec Holmes, quelque chose d'un peu long. Et donc, il a fait appel à quelque chose qui avait été défini par un autre romancier qu'il avait trouvé assez brillant avant lui.
D'accord.
Voilà. Donc,
au passage, il y avait une petite vacherie que tu voulais nous citer, là, que Holmes
oui,
avait
voilà.
dit. Vas-y, dis-nous.
Petite chose amusante, c'est que dans le premier roman, dans L'étude en rouge, Sherlock Holmes fait référence à ses deux prédécesseurs, donc comme s'ils étaient des personnages réellement. Et il émet un jugement de valeur sur eux qui est pas très à leur honneur. Pour lui, Auguste Dupin, donc d'Edgar Poe, est un type tout à fait inférieur. Et Monsieur Lecoq, qui est le héros de plusieurs romans policiers d'Émile Gaboriau, est une misérable savate qui n'a pour lui que son énergie.
Et en même temps, voilà. C'est bien dans le personnage de Sherlock, parce qu'il est assez arrogant, il est assez imbuvable, etc.
Tout à fait. Alors, à la fois, c'est assez drôle, et en même temps, c'est un hommage quand même rendu par Conan Doyle à ses prédécesseurs qu'il a cités, à qui il a emprunté. Donc, il leur rend quand même, à travers le personnage de Holmes, hommage. Voilà. Alors, on va continuer par un petit extrait d'un texte que tu vas nous lire, Patrick, qui est une lecture, une interprétation d'une scène de crime à partir d'indices, une interprétation assez brillante. Donc, je te laisse nous la raconter et puis on la commentera après.
« Je tiens la chose, dit-il au juge d'instruction. C'est tiré au clair maintenant et simple comme bonjour. Le vol n'est rien dans le crime qui nous occupe. » L'assassin est arrivé ici avant 9h30, c'est-à-dire avant la pluie. La veuve Lerouge n'attendait nullement celui qui est venu. Elle avait commencé à se déshabiller, elle était en train de remonter son coucou lorsque cette personne a frappé. La veuve connaissait celui qui frappait. L'assassin a été admis sans difficulté. C'est un homme encore jeune, d'une taille un peu en dessus de la moyenne, élégamment vêtu. Il portait ce soir-là un chapeau à haute forme, il avait un parapluie et il fumait un Trabucos avec un porte-cigare. Il a dit à la veuve Lerouge qu'il n'avait pas dîné. La brave femme a été ravie et tout aussitôt s'est occupée de préparer un repas. Le jeune homme a commencé par boire un verre de vin, puis le cœur lui manquant, il a demandé de l'eau de vie et en a bu la valeur de 5 petits verres. Après une lutte intérieure de 10 minutes, le jeune homme s'est levé, s'est approché de la veuve et alors s'est penché en avant et lui a donné 2 coups dans le dos. Elle n'est pas morte instantanément. Elle n'est pas morte instantanément. Excusez-moi, je suis un lecteur absolument horrible. J'ai buté sur un mot. C'était sans doute fait exprès. Vas-y, Jérôme.
Ça ira comme ça. Donc, cette lecture d'une scène de crime qui est à partir d'indices donc, qui ont été repérés dans le logement de la victime, qui est très détaillée, en fait, pourrait être issue d'un récit de Sherlock Holmes.
Ouais.
Mais en fait, pas du tout. C'est un extrait de l'affaire Lerouge d'Émile Gaboriau.
Voilà.
Donc, une vingtaine d'années avant, eh bien, il y avait déjà cette lecture par un enquêteur brillant qui interprétait des indices.
Flamboyant un peu, gars qui est capable de balancer tout un tas d'affirmations péremptoires sur la base d'indices qu'il voit et que personne ne voit.
Voilà, et que les autres policiers n'avaient pas repéré dans la chambre.
Tout à fait.
Voilà, donc c'était assez drôle, assez cocasse de faire remonter ça. On peut signaler quelques autres caractéristiques du personnage de Sherlock Holmes. D'une part, c'est un combattant expérimenté qui maîtrise la boxe et l'escrime.
Exact, ouais.
Qu'il est un maître dans l'art de se déguiser.
Oui,
il y a plusieurs moments dans des enquêtes, dans des nouvelles, où il est déguisé et où son ami Watson lui-même ne le reconnaît pas. Par exemple, dans l'aventure de la maison vide ou dans l'aventure de Charles Augustus Milverton, dans lequel Holmes va se déguiser en plombier pour récupérer des lettres compromettantes détenues par un maître chanteur. Alors, on va écouter un extrait de cela, mais avant, on va quand même signaler que ces caractéristiques de Sherlock Holmes, on les retrouve chez un personnage qui est un personnage réel, un Français qui s'appelle Vidocq.
Le fameux François Vidocq.
Vidocq, truand et policier, dont on aura l'occasion de reparler.
Oui, dans une prochaine émission.
Qui avait ces caractéristiques-là de combattant et qui était un comédien hors pair.
Ouais.
Donc, qui précède lui aussi Sherlock Holmes.
Et physiquement extrêmement puissant, François Vidocq. Ouais,
voilà, donc écoutons une pièce radiophonique qui va nous montrer les facultés de déguisement de Holmes.
Puis soudain, avec la promptitude d'un homme qui vient de prendre une décision, il se leva et disparut dans sa chambre à coucher. 10 minutes plus tard, il reparaissait vêtu comme un valet de chambre qui sera en ville, gilet rayé, petit paletot et chapeau rond. Et il avait le long des joues une paire de favoris si finement collés que leur nature postiche était indécelable.
Mes respects, docteur Watson. Je suis le majordome de Lord Nottingham, et mon maître vous prie de venir le voir. Il a les oreillons.
Excellent. On jurerait que vous avez servi toute votre vie.
Et on est toujours le serviteur de quelqu'un. Là-dessus, mon cher, je vous dis bonsoir.
Et il sortit. Je savais qu'il avait déclaré la guerre à Charles-Auguste Milverton, mais j'étais loin de me douter de la tournure qu'allaient prendre les événements. Pendant quelques jours, Holmes entra et sortit à des heures très différentes, mais toujours sous son déguisement. Enfin, un soir où la tempête faisait rage, il revint de sa dernière expédition et, après avoir arraché ses favoris, il s'assit devant le feu.
J'ai une grande nouvelle à vous apprendre, Watson.
Ah, laquelle ?
Je suis fiancé.
Vous ?
Me jugez-vous incapable de faire le bonheur d'une femme ?
Non, bien sûr, je m'attendais si peu.
Et que voulez-vous, mon cher ? Il faut bien faire une fin. Et puis, vous savez, l'amour.
Ah, bravo. Et peut-on savoir qui est l'heureux élu ?
Oui, c'est la femme de chambre de Milverton.
Quoi ?
La femme de chambre de Milverton. Elle est ravissante, un peu idiote, mais je serai très heureux avec elle.
Et dire que j'ai marché.
Ah, pas longtemps.
Voilà, donc c'était un extrait d'une pièce radiophonique qui nous démontre donc ses facultés de déguisement, de grimage de Sherlock Holmes, pour l'illustrer. Mmh. Un autre point peut-être à signaler qui est le fait, on l'a dit, que John Watson est un médecin qui, lors de la première rencontre avec Holmes, donc, qui est raconté dans une étude en rouge, il va découvrir le métier particulier et un peu mystérieux qui est exercé par son nouveau compagnon, Holmes. Et qui ensuite va l'accompagner dans son enquête. Ouais. Eh bien, si on creuse un peu, on cherche un peu dans l'histoire de la littérature policière, on se rend compte qu'il y a des antécédents à ce genre de relation.
D'accord.
Dans des romans français. Un roman français qui s'appelle Maximilien Heller, qui est paru en 1871, écrit par Henri Covin. Mm-hmm. Eh bien, on trouve une situation similaire. Un narrateur qui est un docteur en médecine, qui devient l'ami d'un de ses voisins, Maximilien Heller, et qui va aller l'assister dans son enquête.
D'accord.
Dans un autre roman de Gaboriau qui s'appelle « Le petit vieux des Batignolles », paru en 1870, donc toujours avant Holmes, eh bien, on a un narrateur qui est un étudiant en médecine, qui fait la connaissance de son voisin. Il va découvrir qu'il est policier et il va aller l'accompagner dans son enquête sur l'assassinat d'un vieillard aux Batignolles.
D'accord.
Voilà. Donc, on a déjà deux situations de couple médecin-détective dans la littérature avant que Holmes et Watson n'apparaissent.
Avec ce lien avec le monde médical qui permet à l'individu lambda qui accompagne l'enquêteur d'apporter quand même quelque chose de spécifique et d'intéressant pour l'enquête, c'est-à-dire la dimension médicale. Parce que sinon, si vraiment c'est un ignorant total, ça va se voir.
Tout à fait. Le fait que son médecin peut avoir son utilité parfois.
On s'écoute une petite pause musicale mystérieuse et après on expliquera la raison du mystère.
Thank you.
vous écoutez à 23 pas du mystère, votre nouvelle émission mensuelle qui vous parle de polar et de science-fiction. C'est l'ami Jérôme qui est aux commandes de cette émission et qui va nous expliquer pourquoi on a passé ce drôle de truc de violon. Pour quelle raison? Quelle mouche t'a piqué?
Alors, il y a une raison tout à fait logique, mon cher Watson. C'est que ce morceau de violon...
Je suis le Watson de Jérôme. c'est trop bien ça.
Ce morceau de violon qui a été composé par Pablo de Sarasate, qui est un violoniste...
Un
violoniste espagnol virtuose. Et dont la particularité est d'avoir croisé Sherlock Holmes. Ah. Les deux personnages se sont croisés dans une nouvelle qui s'appelle La Ligue des Rouquins. Mm-hmm. Et on peut dater même précisément leur rencontre. C'est le samedi 10 octobre 1890.
D'accord.
À la salle de concert St. James Hall. D'accord. Puisque je vous rappelle qu'à la fin de La Ligue des Rouquins, avant la conclusion, Holmes emmène Watson au concert, mm-hmm, à St. James Hall. Mm-hmm. Et qui est-ce qu'ils vont écouter? Pablo de Sarasate dans son répertoire.
D'accord.
Et donc, voilà, c'était un petit hommage. Et pour souligner aussi le fait que Holmes est décrit à plusieurs reprises comme un violoniste,
ouais,
de bon niveau.
Et un vrai mélomane.
Et un compositeur même. Il composait aussi des morceaux. Voilà, donc on trouvait assez cocasse de réunir les deux, voilà, dans cette illustration musicale.
On arrive à la fin de cette première partie qui était consacrée donc à l'étude des origines du polar à travers la figure de Sherlock Holmes, de Conan Doyle.
Tout à fait.
Alors, petite conclusion, Jérôme.
Oui, c'était simplement pour dire que ce qu'on a essayé de montrer, c'est que Conan Doyle n'avait pas tout inventé dans son personnage de fiction.
Bien sûr, hein, il s'inscrit dans une histoire, voilà, comme tout le monde.
Mais que j'espère quand même ne pas vous avoir empêché de lire, de prendre plaisir à lire et relire ses aventures.
Aucun risque.
Malgré tous les éléments qu'on a mis en avant dans ce petit dossier.
Merci Jérôme.
Merci. À 23 pas du mystère. Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Et alors, si on passait à la deuxième partie, Jérôme?
Tout à fait. Place aux chroniques. Dans ces chroniques, on va nous parler de science-fiction,
ouais,
de bande dessinée et de James Bond. Donc, on va accueillir trois chroniqueurs.
Ouais.
D'une part, peut-être même dans le désordre, je cite Gilles Poussin, qui est notre spécialiste de bande dessinée, un fin connaisseur du domaine, mm-hmm, président d'une association qui s'appelle Dessin Comtois.
Ouais.
Qui s'intéresse aux dessinateurs originaires de Franche-Comté, mm-hmm, qu'on aura l'occasion de fréquenter un peu plus longtemps le mois prochain. On en reparlera.
Tout à fait.
Qui, dans sa première chronique, va nous parler de la nouvelle version du magazine Métal Hurlant, qui est ressorti
légendaire
en kiosque
magazine BD
en 2021. Notre deuxième intervenant, c'est Prof Patrick. on va le découvrir tout à l'heure, qui va nous communiquer son enthousiasme pour l'auteur Ted Chiang.
Avec l'accent. C'est un nom américain, précisons.
Et dans une troisième partie, nous allons faire un petit pas vers la parité homme-femme dans cette émission.
Oui. Parce que tentative misérable, car non aboutie.
Cruellement.
Mais ça a quand même une tentative.
Avec notre chroniqueuse Miss Lemon, qui va nous parler de l'étoffe de James Bond.
Très chouette.
Voilà. Alors, commençons avec la chronique de Geek Patrick. La chronique de Geek Patrick. Alors, Prof Patrick, de quoi vas-tu nous parler dans ta chronique?
Oui. Dans ces chroniques, vous allez découvrir une face cachée de Prof Patrick. C'est le geek Prof Patrick. Donc, on a raccourci ça, effectivement. Geek Patrick, comme tu l'as dit, Jérôme, ça ira très bien. Ça sera mon patronyme pour cette chronique. En effet, je suis depuis le début des années 80 une sorte de geek avant l'heure, surtout pour ma passion pour la science-fiction. Et dans cette chronique que je vais vous proposer à chaque émission, je parlerai la plupart du temps de romans de science-fiction qui m'ont marqué. Récent ou ancien, il y aura de tout. Mais allez savoir, il se pourrait bien que j'élargisse le champ parfois à d'autres supports, le cinéma, les séries, etc. On verra ça. Et pour cette chronique, comme tu l'as dit, Jérôme, je vais vous parler d'un auteur américain qui s'appelle Ted Chiang. Voilà. Donc, son drôle de nom vient du fait qu'il est d'origine asiatique. C'est un auteur de 57 ans qui n'a publié à ce jour, tenez-vous bien, que 2 recueils de nouvelles. Ouais, 15 nouvelles au total. Donc, rien d'autre. Hein, rien d'autre. Il ne se fatigue pas trop. Il faut croire que sa vie l'occupe suffisamment. Le premier recueil date de 2002, est intitulé « La Tour de Babylone » et le deuxième est sorti en 2019 et est intitulé « Expiration ». Alors par contre, s'il a produit peu en quantité, en qualité, c'est assez costaud. Il a un nombre incalculable de ses nouvelles qui ont eu des prix en veux-tu en voilà, puis vraiment des prix très célèbres, Hugo, Nebula, Locus et compagnie. Donc c'est une référence, ce monsieur, malgré le peu d'écrits qu'il nous laisse. Pour bien comprendre la force créative hors du commun de Ted Chiang, je vais m'arrêter sur une nouvelle de SF qu'il a écrit et qui est à l'origine du film de Denis Villeneuve, Premier Contact, qui est sorti en 2016. Et je vais donc vous détailler un peu le contenu de cette nouvelle.
Alors, quelle est l'histoire ?
Le titre, c'est « L'histoire de ta vie ». La vie de qui ? Ben, on y viendra. L'histoire est la suivante. C'est une linguiste aux États-Unis, à peu près à une période comme aujourd'hui, qui est chargée par les autorités américaines de venir travailler pour décrypter le langage d'extraterrestres très étranges dont les vaisseaux viennent d'arriver sur Terre. Ceci pour communiquer avec eux et savoir pourquoi vous venez nous voir. Hein. C'est quand même une question légitime.
Donc, a priori, une histoire de SF un peu classique avec des extraterrestres.
Ouais,
avec qui
a priori.
On veut communiquer.
Mais en fait, on va voir qu'il y a deux points déjà qui font sortir cette histoire de l'ordinaire. Le premier point, c'est que les extraterrestres ont enfin, pour une fois, une forme pas du tout humanoïde, très inattendue. Et le deuxième point, c'est le fait que cette nouvelle s'intéresse spécifiquement à la question du langage. Or, ça, ce n'est pas un thème qui est si couramment développé en science-fiction. Donc, mais en fait, la profonde originalité de cette nouvelle, elle est encore ailleurs. Hein. Les deux points que j'ai cités sont intéressants, mais en fait, on va aller bien plus loin. Et on va le comprendre progressivement à mesure qu'on avance dans la lecture de cette nouvelle. Au début, on est surpris par le choix de l'auteur d'alterner les scènes qui concernent des périodes historiques très différentes de la vie de l'héroïne principale. Pour info, l'héroïne principale s'appelle Louise Banks, professeur Louise Banks. Ainsi, Ted Chiang nous décrit régulièrement des moments de la vie familiale de Louise qui sont centrés sur sa fille à divers moments de sa vie. Et petit à petit, on finit par comprendre que ces scènes se déroulent dans le futur, après son travail sur le langage des extraterrestres. Et on finit par comprendre qu'elle a eu sa fille avec Gary, le physicien avec qui elle fait équipe quand elle décrypte le langage des extraterrestres. Mais ce qu'on va comprendre peu à peu, c'est que ce choix de mélanger les temporalités du récit n'est pas du tout un artifice littéraire. En fait, c'est tout autre chose. C'est le résultat de la transformation profonde de Louise Banks au contact des extraterrestres. Louise Banks seule va subir cette transformation. Elle seule va recevoir un terrible don. Du moins, on peut le supposer. Peut-être que d'autres le recevront après, je ne sais pas.
Et quel est ce don ?
C'est tout simplement le don de percevoir de façon simultanée tous les moments de sa vie. Et donc d'avoir une connaissance totale de ce qu'a été, de ce qu'est et de ce que sera sa vie jusqu'à sa toute fin.
Et peut-on expliquer cette incroyable capacité ?
Eh bien, c'est là que le récit devient absolument génial. C'est en décryptant le langage des extraterrestres que se fait la transformation de Louise Banks. Parce que leur langage n'est pas un langage causal. Chaque phrase inclut de façon simultanée tous les termes, sans qu'il soit jamais possible de déceler dans la formulation une logique de causalité. Ceci a provoqué cela. Et s'il fonctionne ainsi, ce langage, c'est parce que les extraterrestres eux-mêmes ont tous cette capacité de connaître simultanément le passé, le présent et le futur. Et donc Louise acquiert cette capacité lorsque la première, elle arrive à maîtriser le langage, leur langage. Mais cette nouvelle ne tombe pas dans la nouvelle de Ted Chiang, hein, que Ted Chiang a écrit, ne tombe pas dans le piège d'un exercice de haute voltige intellectuelle un peu désincarné. Ted Chiang a beau écrire peu, il connaît bien la musique. Et là, Jérôme, je sais que tu détestes ça, c'est pour ça que ça me fait plaisir. Je vais spoiler à mort l'histoire.
Bon, il va falloir se résigner, vas-y.
Ce que nous comprenons, c'est que par sa capacité incroyable, Louise Banks sait par avance qu'elle aura une fille avec Gary. Elle sait par avance que cette fille sera merveilleuse, que Louise l'aimera follement. Elle sait par avance que sa fille, devenue ado, la fera tourner en bourrique comme savent faire les ados avec leurs parents. Elle sait par avance qu'elle quittera le nid familial pour voler de ses propres ailes vers 20-25 ans. Et elle sait par avance que sa fille mourra d'un accident à 25 ans et qu'elle ne peut rien y faire. Et que son mari ne lui pardonnera jamais de n'avoir rien fait.
Et donc, voilà, poser une question philosophique, peut-on dire, est-ce que le libre arbitre existe dans,
ouais, bien sûr.
Cet univers ?
On est obligé de penser à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le film de Denis Villeneuve, il est encore plus direct, parce que dans le film, la fille de Louise Banks, elle ne meurt pas d'un accident à 25 ans, elle meurt d'une maladie génétique incurable à 12 ans. Donc c'est encore pire. Dans ce film, Une autre question inévitable nous frappe de plein fouet. Est-ce qu'il fallait avoir cet enfant, sachant qu'elle va mourir à 12 ans? Et dans le film, encore plus, je dirais, son mari lui pardonnera jamais de ne pas l'avoir informé, de ne pas l'avoir inclus dans la décision.
Donc comment peut-on comprendre l'attitude de ce personnage?
Ma réponse est la suivante. Ce n'est que ma réponse, mais bon, vous ferez avec. Elle est passée d'un monde fondé sur la causalité, tel que nous les humains on le perçoit, à un monde fondé sur la téléologie, tel que les extraterrestres le perçoivent. C'est-à-dire, tout a une fin déjà connue, il s'agit d'accomplir le plan. Mais accomplir le plan en vivant chaque instant comme si on n'en connaissait pas l'issue, tout en la connaissant. En participant activement de tout son cœur à la marche du monde, en vivant comme un guerrier toltèque, avec une volonté inflexible, un engagement total, même si on sait que l'issue est déjà écrite.
Alors, donc, pourquoi est-ce que les extraterrestres sont venus? Quelle était leur motivation?
Eh bien, figure-toi que la nouvelle ne répond pas à cette question. Bon. Mais, le film de Villeneuve, lui, il répond à cette question et il apporte une belle réponse. Aussi, auditeurs de Caladma Radio, allez voir Premier Contact de Denis Villeneuve pour découvrir cette réponse. Et surtout, lisez Ted Chiang, le génial et parcimonieux auteur de science-fiction de ce mois. J'en ai terminé.
La chronique de Geek Patrick.
Merci Patrick. Nous allons maintenant passer à notre chroniqueuse qui va nous parler d'un thème un peu mystérieux, mais qu'elle va nous expliciter dans quelques instants.
C'est Miss Lemon.
Miss Lemon avec l'étoffe des héros.
L'étoffe d'un héros. Bonjour, je suis ravie de rejoindre cette équipe fabuleuse de À 23 pas du mystère pour une chronique qui va traiter de l'aspect vestimentaire et du rapport textile des héros, souvent masculins, des romans policiers et populaires. Donc on va voir si vous tenez un peu la barre, les gars.
Ça va être dur.
Alors je vous pose la question suivante, de quelle étoffe sont faits nos héros? Est-ce qu'ils sont plutôt soyeux ou plutôt rugueux?
Voilà une question très intrigante à laquelle je ne saurais répondre.
Alors, comme j'imagine votre surprise, bien sûr, je vais m'expliquer. Avec notre premier héros de cette série, voici, moi j'ai choisi James Bond, du romancier Ian Fleming. Pour
c'est
ne rien
aussi.
Vous cacher,
déjà,
vous êtes en forte concurrence.
Déjà, ouais.
Alors, à votre avis, Jérôme Patrick, aura-t-il l'étoffe d'un héros? Nous réglerons ça à la fin.
On verra.
Si vous êtes d'accord. Alors, je commence. James Bond, j'ai lu... J'avais une idée préconçue. En fait, j'ai lu des romans et j'ai regardé des films. Je dois dire que j'étais impressionnée par la qualité en fait, des romans. Alors, j'ai lu en anglais, en français. C'est vraiment super bien. Mmh. Et ça emporte tout le temps.
Ouais,
c'est vraiment bien. Ça claque.
D'accord.
Alors, l'auteur, Ian Fleming, présente James Bond comme l'archétype du bel homme, il faut le dire quand même, qui a de la classe, mais qui n'est pas précieux ni dandy, comme par opposition, je dirais, à John Steed dans Chapeau mollet et bottes de cuir, par exemple, qui certes n'est pas un roman, mais plutôt une série.
Ou Roger Moore, qui n'était pas non plus un interprète,
était
un peu trop dans le côté dandy, je trouvais.
C'est vrai, mais je reviens un peu sur ce point-là tout à l'heure.
D'accord.
Donc, il est de taille classique, un peu au-dessus de la moyenne, 1m80, on apprend ça dans Dr. No. Il porte des vêtements de belle facture, on aimerait bien, et en fait, on pourrait les porter. Alors, par ce côté, il est un peu au-dessus de la moyenne, ok. Mais il n'est pas trop hors norme. Et en fait, les romans sont bâtis de telle manière, et aussi un peu les films, qu'il devient accessible au lecteur, et finalement, on s'identifie, tu vois, même en tant que femme. Parce qu'en fait, il s'est super bien gagné notre confiance dans les descriptifs. Mmh. Alors, Ian Fleming fournit pas trop de détails vestimentaires. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup intriguée parce que j'avais toutes ces idées des différents acteurs avec une profusion en fait vestimentaire.
Ouais.
Et en fait, il n'en est rien, de mon point de vue, dans les romans. Alors, à l'écran, le look est plus travaillé et les films ont influencé, ça c'est très étonnant, une mode James Bond. Donc, il y a des sites de mode et de vente de style James Bond.
Ah ouais.
Et par exemple, Vanity Fair a proposé un petit diaporama sur l'évolution du style vestimentaire de James Bond avec les différents acteurs. Alors, il y a une petite biblio sur le podcast de Caladma Radio, vous pourrez trouver tout ça. Je vous ai noté ça.
Parfait.
Alors, on sait au travers des lectures, en fait, qu'il est séduisant, ça faut le dire hein, quand
oui,
même.
Ça, c'est
alors, il n'y a pas de détails non plus physiques, on sait juste qu'il est plaisant et que les femmes aiment bien le regarder quand même, et n'ont pas honte de le regarder. Alors, il a un style classique, et comme c'est classique, je dirais que finalement, ses ressources physiques naturelles sont mises en évidence par le fait qu'il est classique. Mmh. Alors, il possède une gamme de vêtements rigoureusement identique d'un roman sur l'autre, et il ne faut pas oublier d'une part qu'il voyage au gré de ses missions, donc il a toujours une valise prête, et ses vêtements ont l'air d'être très bien rangés chez lui.
Bon, c'est un anglais en même temps, hein, c'est normal.
Voilà, on a très peu de détails. C'est sûr que ce n'est pas une chambre d'ado, à mon avis, chez lui, même c'est si sûr, on n'a pas de détails.
Non, non.
Et il a une vie privée qui est quand même assez privée, on ne sait pas grand-chose non plus. Il doit toujours être opérationnel et conventionnel à la manière des années 60, parce qu'il faut resituer ça. Mmh. Donc il y a aussi le costume, par exemple, c'est typique des années 60 pour aller travailler. Et il a toutes sortes de choses très conventionnelles pour des missions qui, elles, ne le sont pas du tout. Mmh. Donc pour résumer, dans la valise de James Bond, on va trouver un costume bleu qui n'est pas croisé, parce que c'est pratique et c'est très classe en toutes circonstances. D'accord. Je vais au travail, je vais aux affaires, un costume droit... non croisé, super, bleu marine, ça évoque la confiance. Il peut abriter à l'intérieur, en toute discrétion, une arme à feu qui peut être dégainée rapidement si besoin, une chemise blanche éclatante, une cravate noire et, dans certains cas, un classique smoking. Pas de descriptif non plus, on sait juste que c'est un classique.
Ouais.
Et par exemple, dans Casino Royale, parce qu'en fait, il va dans une ville de villégiature, au casino notamment, pour... jouer de l'argent des contribuables.
Et rencontrer des gens riches qui jouent également.
Exactement. Donc, dans ce cas-là... Alors, ce qui est intéressant avec James Bond, c'est qu'on sait qu'il a fait des études, mais ce n'est pas les meilleures études. Il vient d'une famille qui n'est pas de la meilleure famille. Et ceci dit, c'est se comporter assez bien, quand même.
D'accord.
En toutes circonstances, il apprécie les bonnes choses. Mais il ne rate pas non plus de faire des petites phrases et des choses. Il ne lâche pas les personnes qui l'ennuient quand même.
Mm-hmm.
Voilà. Mais comme dans les films, c'est un peu pareil dans les livres.
D'accord.
Il a toujours des mocassins souples qui lui permettent de sentir en fait, le sol, même s'il a des talons amovibles avec des petits outils variés. Voilà. Pour la tenue décontractée dans la valise, une chemise de coton de Sea Island. Alors, je n'ai pas eu le temps de regarder si c'était hors spécialité.
Le fameux coton de Sea Island.
Voilà. Un pantalon léger, toujours bleu. De temps en temps, j'ai cru lire dans une traduction un jean, mais je ne suis pas sûre. Et des sandales bleues. Et pareil, un short de bain et un pyjama de soie bleue qui vient d'Asie.
Il aime le bleu, en tout cas. Hein,
ça, c'est son truc.
Mister Blue.
Alors après, en même temps, il est souvent bronzé parce qu'il est pas mal en Jamaïque. Donc, je crois que ça doit faire ressortir avec la chemise blanche.
Avec le bleu, c'est trop classe.
Voilà. Donc, chaque article est de très bien taillé, intemporel. Pas d'informations sur le tailleur particulier, contrairement à tout ce qu'on peut voir dans les films, en fait.
Mm-hmm.
Les seuls détails de marque qui sont cités sont sa voiture et sa montre, donc Rolex.
D'accord.
Et de temps en temps, un imperméable Burberry of London, parce que des fois, quand il est à Londres, il pleut. Dans l'homme au pistolet d'or.
C'est vrai.
Mais surtout, ce qui est intéressant, pour en revenir à l'étoffe, c'est que tout est souple, confortable, super résistant. Donc, tu as une grande liberté de mouvement, rapidité, efficacité au bon moment. Parce que les romans, comme l'homme, sont super efficaces, il faut dire.
D'accord. Ouais.
À l'occasion, les vêtements peuvent changer de fonction. Dans Dr No, il doit découper sa chemise pour se protéger les mains et les pieds de l'extrême chaleur. Il se trouve dans un conduit.
D'accord. MacGyver, quand même.
Hein. Exactement.
Exactement.
Ouais. Mais du coup, ses vêtements sont vraiment à toute épreuve. Il arrive aussi, pour la petite histoire, qu'il se retrouve nu dans les moments de torture.
Comment est-ce possible?
Dans Casino Royale. Et franchement, il a pas l'air trop musclé, mais plutôt pas mal, faut bien le dire. Bon, bref, c'est un autre type d'étoffe, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, quant à l'étoffe elle-même, le personnage, c'est un grand solitaire. Et donc, comme tous ces grands solitaires, il doit prendre soin de lui pour durer.
Mm-hmm.
Donc... James Bond, il est dans la sobriété du style, dans l'efficacité de la coupe, on l'a déjà vu. Il choisit des étoffes qui lui apportent du bien-être et de la douceur pour contrebalancer la rudesse physique et mentale des missions, la violence des adversaires, la cruauté et le sadisme de tous ces fous qui le harcèlent et le font prisonnier, la souffrance aussi. Il y a beaucoup de souffrance physique, en fait, et mentale. Mmh. Et puis toujours, il sait qu'il a cette perspective, sans doute, jusqu'à la fin du livre, de la mort, en fait.
Ouais.
Comme fin de mission, ce qui n'est pas toujours très drôle. Ok, c'est un double zéro, donc il sait qu'il doit tuer et qu'il peut mourir aussi. Voilà. Donc tous ces menus détails font que... lui font du bien, en fait, ici et maintenant. Parce qu'on sait maintenant ce qui se passe, on ne sait pas tout à l'heure ce qui se passera.
D'accord.
Donc par exemple, la chemise en soie, il est décrit que ça lui fait du bien, même si c'est très chaud. Quand il joue au Casino Royale, il sent bien là-dedans et ça lui fait du bien. Et puis aussi, c'est un grand amateur de somptueux dîners. Bon, généralement, homard grillé, champagne caviar.
Bien sûr.
Peut-être pas dans cet ordre-là, mais bien.
Bien sûr.
Et en fait, dans Casino Royale, il confie
de dame aussi, non ?
Il confie à sa partenaire féminine qui prend des plaisirs ridicules en mangeant ou en buvant. Et sans doute, il explique ça parce qu'il est célibataire et que le fait d'accorder beaucoup d'importance aux moindres détails d'un repas le rend beaucoup plus intéressant évidemment. En fait, il est très exigeant pour lui-même, dans ses attentes perso, mais aussi dans les moyens qu'il se donne pour s'offrir ce qui lui plaît. Donc c'est un consommateur avec très bon goût, pas un collectionneur, contrairement à John Steed, par exemple.
D'accord.
Parce qu'il sait que tout peut basculer en cours de mission. Donc il est dans le présent, ici, maintenant. Il va sans dire que à l'écran, on montre un personnage plus dans la profusion de marques. Notamment, je crois que c'était à une certaine époque, tout était marque. On en voyait partout, là, les logos, les choses comme ça. Donc, c'est pas ça. Mais du coup, il est quand même dans la recherche du style. Et par contre, ce qui est bien dans tout ce qui est représentation au cinéma, c'est qu'on garde bien quand même l'esprit de James Bond, des répliques et du jeu des acteurs successifs. Ça, on retrouve bien. Alors, un autre point étoffe, James Bond a un œil d'expert. Il décrypte et essaie d'écrire factuellement les tenues de ses interlocuteurs, ce qui permet de les catégoriser. En général, il ne se trompe pas.
C'est un petit côté Sherlock Holmes, alors.
Donc, voilà. Donc,
on a fait un lien.
Il voit des gens, un riche Américain, et il se dit, tiens, il est de tel tailleur, et il s'est fait entourlouper, il a payé un maximum, et ça n'a aucune tenue. Sa tenue est style, etc. Donc, ça lui permet de sous-peser la qualité de ses adversaires aussi. Et souvent, son expertise est assez juste, puisque quand il se retrouve confronté, ce qu'il avait prévu ou analysé se retrouve vrai.
Je confirme.
Voilà. En conclusion, pour moi, James Bond, il a vraiment l'étoffe d'aéro. Il est tout à fait soyeux, faut dire. Et aussi très rugueux, quand même.
Soyeux, parce que, James.
Mais quand même, il en endure beaucoup.
Bien que je caresse ton double 07.
Donc, j'ai quand même lu avec plaisir, je dois le reconnaître, les romans. Et c'est jamais trop, parce que c'est les années 70. Donc, même avec les femmes, il a un comportement gentleman. Voilà. Il n'y a pas trop de détails. Je trouve que c'est assez plutôt bien fait. Après, il a une bonne connaissance, une super expérience, même s'il ne maîtrise jamais vraiment toutes les disciplines. Il n'est pas le meilleur tireur, il n'est pas le meilleur joueur de golf, pardon.
Il a
juste un bon niveau, mais il n'est jamais imbattable. Ce qui lui fait que ça lui permet, entre guillemets, de tomber régulièrement dans des pièges extrêmement raffinés, de subir des tortures, etc. etc. En parallèle, malgré tout ça, il reste très humble. Donc, c'est un peu ce qui fait son étoffe du héros. Et il refuse les lauriers qu'il mériterait pour ne pas devenir en fait un personnage public. Donc il décline l'honneur de titre de chevalier qui normalement est remis par la reine d'Angleterre, je dois dire, dans l'homme au pistolet d'or, pour rester dans l'ombre.
Et, c'est ça, c'est un homme de l'ombre en fait.
Il apprécie la reconnaissance d'être... cette reconnaissance, mais en fait il a envie
de
rester solitaire.
La tranquillité de l'anonymat.
Voilà, et je vais citer ça pour conclure. Donc il était heureux de savoir qu'il allait être... potentiellement un chevalier, mais il savait que tout le reste n'était pas à son niveau. Il n'avait jamais été un homme en vue et ne tenait pas à le devenir. Il n'avait aucun préjugé pour ou contre les noms précédés d'un titre, mais il y avait une chose qu'il chérissait par-dessus tout, le secret de sa vie privée.
Vous écoutez à 23 pas du mystère sur Calade Ma Radio, la nouvelle émission mensuelle consacrée au polar et à la science-fiction. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous avons parlé, merci Miss Lemon, de James Bond. Nous avons parlé d'une nouvelle de Ted Chiang, auteur de science-fiction. Nous allons passer à la troisième chronique, Jérôme.
Tout à fait, qui est en bande dessinée de science-fiction avec la nouvelle formule du magazine Metal Hurlant.
Super.
Le poussin s'en mêle.
Bonjour, je voulais vous parler pour cette première chronique des 50 ans de Metal Hurlant. Metal Hurlant aura 50 ans en janvier 1975. La maison d'édition Les Humanoïdes Associés qui l'édite est née elle juste un mois avant, en décembre 1974. Il y a eu trois incarnations du journal Metal Hurlant. Il y a eu la première, donc la plus connue, de 1975 à 1987, dirigée par Jean-Pierre Dionnet, donc avec les fondateurs, les dessinateurs Moebius, donc Jean Giraud et Philippe Drouillet, également accompagné de Jean-Pierre Farkas. Et puis, après 87, il y a eu un long sommeil, soudain réveillé au début des années 2000, sous forme un peu de comics qui étaient vendus en librairie entre 2002 et 2004. plus un ultime numéro en 2006. Et ce qui est amusant, c'est que c'était déjà à la rédaction en chef le dénommé Jerry Friesen, qui travaillait depuis un moment aux Humanoïdes Associés, et qui, dans le dernier numéro, qui disait, je vous le lis parce que c'est assez fascinant, donc en 2006, Métal Hurlant, en attendant, je l'attends sagement le prochain, peut-être serai-je encore là pour voir ça. Évidemment, il ne se doutait pas en écrivant ces phrases qu'il serait effectivement là en 2021, quand le journal a redémarré. Alors, au début, ce n'était pas lui qui était rédacteur en chef, le numéro 1 donc, de la formule actuelle qui était relancé en 2021 par un financement participatif, était mené par Vincent Bernière. Et puis, on va dire qu'il y a eu un bug entre Vincent Bernière et les Humanoïdes Associés. Et passé le numéro 1, donc toute l'équipe qu'avait embauché Vincent Bernière et lui-même, évidemment, ont disparu de la circulation, si je puis dire. Et le journal a été repris donc, avec à sa tête le dénommé Jerry Friesen, dont je vous parlais, qui était donc là déjà au début des années 2000. Alors, comment est ce nouveau Métal Hurlant ? Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est un trimestriel, il fait à peu près, même complètement dans les 274 pages, c'est quand même donc un gros bébé qu'on retrouve tous les trois mois. Et au début, c'était à la fois une alternance de numéros avec des auteurs contemporains, et des autrices, bien sûr, et un numéro vintage, si on peut dire, c'est-à-dire des reprises de bandes dessinées qui étaient parues dans le Métal Hurlant de 75-87. Et tout ça a duré jusqu'au numéro 8. Et puis là, ils ont décidé d'arrêter cette alternance. Et ils ont démarré également des numéros à thème. C'est-à-dire que, vous avez le numéro 3 où c'est « Vacances sur Mars ». Donc, vous voyez tout de suite un peu l'imaginaire que ça peut générer. Ce qui est intéressant aussi dans l'équipe qui s'est constituée autour de Jerry Friesen, c'est que vous avez un peu l'équivalent d'un personnage un peu mystérieux qui existait à l'époque de la première incarnation qui s'appelait Joe Staline. On ne savait pas trop qui était ce Joe Staline. Et là, ils ont reproduit un peu le modèle, mais en le dédoublant, c'est-à-dire que vous avez un personnage mystérieux, on ne sait pas qui c'est, qui se fait appeler Otto Maddox, Otto étant son prénom, et il a une fille qui s'appelle Candy Maddox. Alors, Candy Maddox, on la retrouve donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, où elle fait la promo, on va dire, du journal auquel participe son papa. Et Automadox, c'est très intéressant parce qu'il amène une respiration qu'on avait dans les premiers métals du XXe siècle, c'est-à-dire ce côté un peu ironique ou un peu décalé qui a bien besoin, puisque au départ, c'est un journal quand même très axé sur la bande dessinée et des bandes dessinées courtes, puisque de par le format et de par la parution, il n'y a pas d'histoire à suivre. Donc, c'est des histoires qui, a priori, ne seront pas reprises en album. Alors, que dire d'autre ? Eh bien, ils ont comme rédacteur en chef adjoint depuis quelques numéros, depuis 2023, depuis l'année dernière, Lloyd Sherry. Lloyd Sherry, qui vient de la grande presse, qui vient notamment qui a participé au journal, à l'hebdomadaire Le Point, essaye d'injecter une vision justement presse dans le journal, donc amener des sujets forts avec des personnalités. Par exemple, dans le dernier numéro, le thème c'est la vengeance, il y a une interview de James Ellroy, donc ça paraît surprenant dans une revue de science-fiction, mais de par le thème, la vengeance, quand on connaît l'œuvre d'Elroy, on peut comprendre pourquoi il atterrit là. Et puis, ils ont ressuscité des anciennes rubriques, comme le Mange-Livre, et ça donne aujourd'hui, donc là, un magazine, si vous voulez, qui est assez complet, qui reste majoritairement de la bande dessinée, et quasiment uniquement de la science-fiction, voire une dérive vers le fantastique, comme le numéro précédent, qui était consacré à Lovecraft, qui est très réussi d'ailleurs, et qui a très bien marché. Et puis, vous avez ce côté d'information qui vient compléter ces bandes dessinées, ce qui fait que ça donne vraiment une vraie revue avec, je vous disais, aussi cette intervention de Otto Maddox qui reste toujours très amusante à chaque numéro. Pour finir et pour compléter, comme nous sommes à l'époque de anniversaire des 50 ans, les Humano, Métal Hurlant, ont décidé de sortir des numéros, on va dire, un peu hors série, qu'ils ont appelés Opus Humano, et qui sont classés par tranches d'années, quoi. Donc là, on en est au deuxième, il y en a trois qui sont prévus en 2025. Et là, ça revient à ce qu'il faisait quand il faisait des numéros vintage, où il republie, avec contextualisation de journalistes actuels, des grandes bandes dessinées parues à l'époque du Métal Hurlant originel. En complément de ces opus, vous avez également des dépliants qui sont disponibles en maison de la presse et en librairie, qui s'appelle « Des lendemains qui hurlent ». Il y en a deux qui sont déjà parus, que je vous recommande, où notamment on découvre l'affichiste et illustrateur Laurent Durieux, qui est extrêmement bon, et vraiment, il revisite tous les grands personnages qui sont nés dans Métal Hurlant. Enfin, pour finir, je voulais vous citer quand même quelques auteurs, certains peut-être que vous connaissez déjà, comme Richard Guérineau, qui avait fait une adaptation de Charlie Neuf de Jean Tellet, et qui là se livre d'une manière assez régulière, avec des histoires et des couvertures dans Métal Hurlant. Hélène Usdin, qui est un côté très pictural, mais complètement, je dirais, dans le bon sens, azimuté, et c'est très beau. Antoine Daudet, qui se rapproche un peu de Imagex, pour ceux qui auraient connu cet auteur. Et enfin, Pim Boss. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de lire ou de redécouvrir Métal Hurlant, toujours vivant, en 2025.
C'était la chronique Le Poussin sans mêle. Jérôme, tu voulais nous dire une petite chose concernant la chronique du Poussin ?
Oui, simplement une petite correction sur un prénom d'un des fondateurs de Métal Hurlant, qui s'appelle en fait Bernard Farkas.
D'accord.
Et non Philippe, je ne sais comment c'est, Gilles
c'est
a
rectifié.
Dit. C'est bien Bernard Farkas, son prénom.
Très bien. On arrive à la fin de cette émission. On va sur une petite conclusion, Jérôme. On a bien travaillé.
Oui, alors simplement pour indiquer aux auditeurs qu'on a une page web dédiée à l'émission sur laquelle on peut retrouver toutes les références des ouvrages et des auteurs qui ont été cités.
Tu parles du podcast, là.
En cours, voilà, du podcast.
D'accord, je me demandais de quoi tu parlais.
C'est vraiment
une page web,
podcast.
Je savais pas.
Donc, on va pouvoir retrouver toutes les références des ouvrages cités.
On va tout mettre.
Et puis, on se retrouve donc le mois prochain
ouais.
avec... alors, on va faire je vais t'emmener faire un petit voyage, Patrick, à Besançon.
C'est trop chouette, un voyage
à Besançon, on va aller rencontrer Gilles Poussin sur
le
place.
Le fameux Poussin.
Pour parler avec lui de Métal Hurlant, de l'original, du magazine, du
Super.
Fameux magazine célèbre dont il est un des bons connaisseurs. Donc, on va aller l'interviewer sur place. On sera avec lui. On retrouve bien sûr Geek Patrick dans sa chronique qui nous parlera d'une célèbre romancière
oui.
américaine de science-fiction.
Tout à fait. S'il y a une petite polémique sur la prononciation de son nom, donc ce sera la surprise pour le mois prochain.
Et puis on retrouvera donc Miss Lemon, comme elle nous l'a annoncé, avec l'étoffe d'un nouveau héros qui est Kurt Wallander.
Super.
Héros du romancier Henning Mankell. Voilà.
Parfait.
Au mois prochain.
auditeurs de Calenma Radio. Au mois prochain.
Au mois prochain.
Calade.
À 23 pas du mystère.
Balade à travers le polar, la science-fiction et l'aventure, hors des sentiers battus.
Calade, ma radio. Sur le 100.9 et radio-calade.fr.